merci. Merci Yana et Sébastien pour cette invitation. Bon, je suis très content d'être là parmi vous et puis que vous soyez aussi à l'INRP puisque c'est l'établissement où on travaille et où l'équipe Eductis réfléchit à la fois aux questions de ressources pour l'enseignement au-delà des mathématiques. On travaille sur l'enseignement des sciences, disons, questions de ressources et questions de dispositifs pour les concevoir, aussi bien dispositifs institutionnels que dispositifs associatifs, et c'est le cas de cette journée. Alors, conception et usage de ressources pour et par les professeurs, la collaboration ressort de projets associatifs et de projets de recherche. J'emploie le mot ressort dans les deux sens. À la fois, la collaboration, elle ressort de ce que vous faites et des projets de recherche que je vais montrer. Et puis aussi, la collaboration, c'est le ressort, c'est ce qui permet au projet de se développer. Vous voyez un deuxième nom, Ghislaine Godet. Je travaille avec elle sur cette approche. Elle n'est pas là ce matin, mais elle sera là cet après-midi. Elle anime des ateliers et nous avons préparé cet exposé ensemble. Cet exposé qui aura de nombreux points communs avec ce qu'on a raconté le 24 septembre. Il y avait une journée des associations à l'INRP à Paris. Alors, je crois qu'il y avait 4-5 personnes. Elles entendront des choses communes, ça ne les surprendra pas. Si elles sont attentives, après, elles pourront essayer de dire ce qu'il y avait de différent entre les deux. Elles seront interrogées. Alors, dans ce que je vais dire, retenez que pour moi, le mot ressource a un sens très large. C'est-à-dire que c'est les ressources pour la classe, mais c'est les ressources qui permettent de concevoir ce qu'on va faire pour la classe. Une association, c'est une ressource. En fait, j'entendrai par ressource tout ce qui ressource l'activité du professeur et des collectifs dans lesquels il déploie son activité. Alors, je vais raconter un certain nombre de choses. D'abord, des éléments de toile de fond de la réflexion. Ça sera très proche de ce qui a été dit à Paris. Regardez un peu les associations, pas seulement ces AMAT, mais les autres associations qui nous a été données de regarder, avec qui on a entamé un travail. Puis ce qui sera nouveau, là, j'essaierai de voir comment les projets de recherche dans lesquels j'ai été présent et qu'on développe actuellement, comment ces projets posent aussi les mêmes questions, finalement. De ce que racontent les associations sur elles-mêmes, ce que Benjamin et Jean-Philippe ont dit ce matin, de ce que la recherche dit sur elle-même, bon, finalement, quels sont les concepts, les approches pour penser ces questions, et puis comment on peut poursuivre ensemble, quelles nouvelles étapes on pourrait se donner pour cette collaboration. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, la toile de fond de la réflexion, je partirai de dimension collective de l'activité des enseignants. Alors, il y a peut-être une discussion à voir là-dessus, puisque le 24 septembre, lors de la journée dont je parlais tout à l'heure, il y a eu un petit bout de discussion sur est-ce que dans les communautés enseignantes, on collabore, ou les aspects collectifs sont plus développés que dans d'autres disciplines, que dans d'autres métiers. Bon. Alors, c'est une discussion complexe. La situation n'est certainement pas la même dans le premier degré et dans le second degré. Si on regarde le second degré, tous les rapports institutionnels, on est remonté jusqu'à jusqu'au 19e siècle, mais enfin le rapport Pochard en parle lui-même. Quand on parle des assemblées de professeurs dans les lycées, le rapport Ribot, c'est un rapport parlementaire sur l'enseignement du second degré, dit les assemblées de professeurs sont des assemblées mortes. Et les professeurs fonctionnent sur le modèle seul maître dans sa classe. Il y a certainement, quel que soit le niveau que l'on regarde, premier degré, second degré, supérieur, une évolution du numérique, créée par le numérique, c'est ce que Jean-Philippe a dit tout à l'heure, je crois. Il y a de nouvelles formes du travail des enseignants, avec des évolutions fortes chez les jeunes enseignants. C'est ce qui est relevé dans ce rapport Pochard. L'expression « une dynamique du collectif », suscitée en particulier par Internet, mais pas seulement par Internet. Et quand on regarde les réflexions générales sur les questions de numérisation, en particulier, il y a un petit bouquin qui est très très facile à lire et très intéressant, du réseau, alors RTP, c'est Réseau Thématique Pluridisciplinaire, donc un réseau de recherche qui a rassemblé des chercheurs, des ergonomes, des informaticiens, des chercheurs dans l'ingénierie documentaire, et le bouquin s'appelle, je crois, Le document à l'ère du numérique, et qui insiste beaucoup sur cet aspect. Voilà ce que change la numérisation. Elle fabrique des communautés virtuelles, flottantes, illimitées, insaisissables, mieux qu'aucun livre. Et Pédoc conclut par cette définition d'un document. Il dit finalement, aujourd'hui, un document, on peut le dire, c'est un contrat entre les hommes. Donc c'est des évolutions très générales qui touchent pas seulement les enseignants. Toi, de fond de la réflexion, c'est aussi parler des ressources numériques pour l'enseignement, des ressources pour l'enseignement. Bon, alors, ces ressources numériques pour l'enseignement, elles sont de plus en plus nombreuses. Majoritairement, aujourd'hui, il y a évidemment les sites personnels. Et en mathématiques, Césamat et tout le travail qui vient d'être présenté. Aussi, beaucoup de sites associatifs. Il y a aussi des sites fondés sur des recherches sur l'enseignement. Alors là, l'échelle de fréquentation n'est plus du tout la même. Ça va être une échelle de, je dirais, 1 à 100, peut-être 1 à 1000 dans les connexions. À l'INRP, il y a le site Pégase qui est développé par une équipe de recherche pour assister le travail des professeurs en physique-chimie. C'est donc un site dont la conception associe des chercheurs, des praticiens. Bon. Il y a le site EducMath qui est un peu autre chose, parce que là, c'est pas un site pour développer des ressources pour la classe, mais plutôt une plateforme d'échange entre praticiens, mathématiciens, chercheurs en didactique, bon, tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement des maths. Par exemple, il y a un forum actuellement sur la réforme des modes de recrutement des enseignants. Qu'en pensez ? Avec des contributions d'enseignants en UFM, de chercheurs, de mathématiciens, etc. Donc, c'est une autre vocation, mais c'est aussi des ressources numériques pour l'enseignement. EducMath a aussi essayé de développer des pratiques de mutualisation dans le domaine de l'édition. Il y a par exemple dans dans le dernier numéro de Repère, pardon, la revue des IREM, c'est un numéro spécial mutualisation. Et là-dedans, il y a des articles qui sont copubliés par Repère, par EducMath et aussi par Mathématis. Hein, donc, EducMath a cette vocation d'essayer de tisser des passerelles entre différentes communautés. Et puis, il y a des sites institutionnels de grande ampleur. EducNet, c'est un site institutionnel de grande ampleur. Alors, il serait intéressant de voir les différences d'usage entre les ressources qu'on trouve sur EducNet, qui sont des ressources qui ont suivi un chemin très laborieux de tri, de filtrage par les IPR, les structures académiques, et puis qui arrivent et qui sont, en principe, qui ont une identification qui permet de les retrouver dans un certain nombre de ressources. Il faut s'intéresser à leurs usages. Il serait intéressant aussi de regarder ce qui se passe dans d'autres pays, en particulier en Amérique latine, où il y a un développement très important de sites, et là, qui sont appuyés par des institutions, avec vocation à former et développer des échanges entre des enseignants distants. Et c'est des sites qui sont développés depuis 2 ans, je crois, et où il y a un usage très, très fort et appuyé sur des communautés d'usagers, mais aussi des communautés de concepteurs, les professeurs de terrain étant invités à contribuer à ces sites-là. Donc là, il y a vraiment, il me semble, une osmose entre une volonté institutionnelle et puis un essor des aspects collectifs, le travail des enseignants et les enseignants prenant eux-mêmes en charge leur formation, les échanges avec les collègues. Donc ça, c'est des choses qui seraient intéressantes à regarder. Alors, dernier élément de la toile de fond, associations et institutions. En France, pour le moment, il y a là des choses assez intéressantes à regarder. Il y a des articles qui ont été faits par des enseignants issus de ces associations ou dans ces associations, hein, où il est clair que dans les relations entre des associations vers l'institution, il y a une sorte de méfiance ou de volonté de prendre en main soi-même son propre destin à travers les ressources qu'on va publier. Et donc une volonté d'aller à l'encontre d'un monopole de l'information hiérarchique descendante. Et quand l'institution s'intéresse aux associations, alors vous connaissez bien au niveau de Césamat, ces relations très différenciées suivant vos interlocuteurs, ça peut être au départ l'ignorance, avec la volonté le point de vue que seule l'institution peut développer des choses qui sont pertinentes. Donc l'ignorance, puis la méfiance, et puis ensuite une intervention plutôt orientée vers la normalisation. C'est-à-dire, bon, il y a des choses qui existent, on va voir comment elles peuvent être régulées par l'institution elle-même. Hein. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un modèle de fonctionnement où l'institution accepte une sorte de co-construction des ressources avec des associations. Les choses peuvent évoluer. Le fait que des projets déposés par ces abattes auprès de la SDTIS soient acceptés témoigne, je pense, d'une évolution des choses qui est naturelle et qui est obligatoire. Parce qu'au bout d'un certain temps, à partir d'un certain niveau de développement des choses, l'institution ne peut pas se fermer les yeux en disant ça ne me regarde pas ou ça ne m'intéresse pas. Elle doit faire avec. Et donc là, il y a des relations qui sont à construire. Les nouveaux projets institutionnels pour le développement du numérique à l'école, vous avez vu le rapport EDUC. Ce qui est intéressant dans ce rapport, qui était quand même pour l'essentiel construit, conçu, dans la perspective d'un partenariat public-privé, et dans public-privé, il n'y a pas les associations, il y a en gros les éditeurs publics, c'est le ministère, les éditeurs privés, bon ben c'est les éditeurs Hachette, classiques, etc., puis les développeurs classiques aussi, Microsoft et autres. Ce qui est intéressant de voir, c'est un certain infléchissement dans les discussions de la mission EDUC, qui a finalement entendu les associations, et dans le rapport final, cette place des associations est quand même reconnu. Ça reste encore très vague. Hein. Et la mission EDUC, je ne sais pas exactement ce qui en sera retenu par le ministère. Nous, ce qui nous intéressait, c'était un observatoire des ressources qui devait être mis en place. À l'heure actuelle, je ne sais pas si cet observatoire sera mis en place. Donc, les différentes propositions de la mission EDUC, on ne peut pas dire aujourd'hui ce qu'il en adviendra. Créer une plateforme d'identification et de présentation des ressources et des usages. Bon, c'est une proposition, une dynamique de labellisation avec un service d'information et d'analyse et logiciels libres éducatifs, on verra ce que ça devient, l'accompagnement, l'aide en ligne, mutualisation dans les projets d'établissement numérique, là aussi sont des intentions affichées, où on ne voit pas exactement comment les choses fonctionneront, mais il y a une volonté d'avancer dans cette direction. Alors voilà la toile de fond, certainement une toile de fond où beaucoup de choses bouge du point de vue institutionnel, mais du point de vue des associations aussi. Hein, ce que Benjamin et Jean-Philippe ont présenté, c'est bien une évolution dans la conception du travail collaboratif et puis un certain nombre d'interrogations du travail collaboratif fermé, restreint, un travail collaboratif plus ouvert. Donc, beaucoup de choses bougent. Alors, on a essayé de voir où en étaient les choses et une commande nous avait été... Je ne sais plus comment c'est passé, mais dans la préparation de la journée du 24 septembre, Ghislaine Guedet et moi avions proposé d'interroger les différentes associations, enfin trois associations, Weblettres, Césamat et Clionote, pour voir d'une part quel était le point de vue des responsables des associations sur leur propre développement, et puis ensuite le point de vue des membres des associations sur l'association qu'elles construisaient. Alors je vais donner juste quelques éléments. qu'on a déjà présenté le 24. On a d'abord posé des questions aux associations, un questionnaire qui a été discuté avec elles, hein, comment vous fonctionnez, vos réussites, vos problèmes, les questions qui sont ouvertes à ce stade de développement, et puis des questions posées à des membres des associations correspondant à différents niveaux, puisque dans les associations, les dernières interventions l'ont montré aussi, il y a des gens qui arrivent dans les associations, il y a des responsables qui sont au niveau de pilotage de l'association, puis il y a des responsables de projet, et quand les associations se décrivaient elles-mêmes, elles décrivaient leur composition comme étant plusieurs champs concentriques. Donc on a essayé d'interroger des gens des associations dans chacun de ces champs. Utilisation, mutualisation, travail en commun. Et les questions qu'on a posées, c'est des questions très larges. C'est quoi pour vous une bonne ressource? La mutualisation, le travail coopératif, collaboratif, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Quel est votre rapport à la vie de l'association? Et puis, enfin, faire un schéma représentant l'association et puis se situer dans ce schéma. Alors, quelques éléments sur les réponses très intéressantes qu'on a eues. D'abord, les réponses des responsables des associations. L'histoire qu'elles donnent à voir sont des histoires qui se ressemblent. C'est-à-dire que on voit une vie des associations qui commence par un mouvement de mutualisation, c'est-à-dire qu'on met des choses en commun. Et là, il y a un certain nombre d'outils qui permettent ceci. Puis un mouvement de coopération qui est dans la dynamique de la mutualisation, avec des chantiers, organisation de répertoires, etc. Et puis... Et Césamat est certainement la plus avancée de ce point de vue-là, la collaboration, qui est toujours dans la dynamique de la coopération. Et puis, c'est vrai qu'on voit des cercles concentriques qui sont liés à la fois au type de travail et à l'implication. Hein. C'est-à-dire que plus on est impliqué, plus on se rapproche d'un mode de travail qui est un mode de collaboration. Alors, j'ai essayé de faire un dessin, mais tout dessin est une simplification. Mais pour essayer de traduire la vision les réponses des associations données d'une association. Hein. Donc, d'abord, on a l'impression d'un premier groupe qui se constitue autour de la mutualisation. Puis il y a une deuxième étape où le groupe qui mutualise s'organise lui-même. Donc c'est ceux qui sont dans le cercle bleu restent dans le cercle bleu. Et puis deviennent, passent à un stade de coopération. Puis agrègent autour d'eux de nouvelles personnes qui mutualisent. Et puis on arrive enfin à une autre étape où le groupe qui coopérait collabore. Et puis etc. Des choses comme ceci. Alors ça c'est un modèle assez frustre qui ne traduit pas toute la richesse du développement des associations et leur diversité. Ce qui est intéressant toujours c'est que à chaque étape de ce développement, la nécessité de petits sas entre les différentes couches apparaît. Et on va retrouver là-dedans l'idée de formation, de commodération pour associer des personnes, des membres de l'association, à des cercles plus actifs ou des cercles où le travail est plus complexe à organiser. Alors je dis que ces graphiques ne sont pas forcément, ne traduisent pas la réalité précisément de chaque association. Par exemple, le statut de la mutualisation. Est-ce que dans ces AMAT, aujourd'hui, quelqu'un peut arriver, la mutualisation, c'est arrivé quelque part, non, regardez, moi je fais ça, je vous le donne, je le mets en commun, je le mets en partage. Bon, certainement aujourd'hui, dans ces AMAT, ça paraît moins, ça paraît plus dans d'autres associations. Est-ce que cette étape de mutualisation, est-ce que ce dispositif de mutualisation un peu vague, un peu flou, où une association permet une entrée directe et simple à quelqu'un qui arrive, est-ce que cette entrée est nécessaire? Bon, c'est une question, on pourra en reparler après. Et les questions qui sont posées par les associations sont assez proches finalement. D'ailleurs, la journée du 24 était une journée autour des modèles. Quel modèle de fonctionnement associatif? Comment impliquer, former plus de gens dans ce travail? Quel équilibre entre salariat et bénévolat? C'était posé tout à l'heure. Enfin, le salariat, ça se pose que pour ces AMAT et pour de rares associations d'enseignants. Quel travail coopératif entre professeurs des écoles et professeurs de collège? La collaboration ou la coopération, est-ce que ça concerne que des gens proches? Ou est-ce qu'on peut collaborer entre des gens distants sur le plan du type de travail, enfin du niveau? Comment expliquer ce qui ne marche pas? Et puis on pourrait dire comment expliquer ce qui marche, parce qu'on a vu dans le développement de ces AMAT, il y a beaucoup de choses qui marchent, même la plupart des choses marchent, donc comment expliquer ce qui marche? La question de la qualité s'est évoquée, c'était repris par Gérard. Est-ce qu'il est possible de faire de la qualité en mutualisant, en coopérant, en collaborant? Est-il possible? On peut toujours répondre oui, mais la vraie question, c'est à quelles conditions on peut assurer cette qualité? Quel modèle de relation avec l'extérieur, l'institution, enseignant, inspection? Quelle place dans le secteur de l'édition pédagogique? Et puis, des questions importantes autour de modèles spécifiques et génériques. Hein. Qu'est-ce qui est transposable? Ce que font les profs de lettres, leur façon de s'organiser? Est-ce que c'est transposable? Est-ce que les techniques, les ressources peuvent s'échanger? Et puis, il y a d'autres communautés que les communautés d'enseignants, en particulier dans les communautés du logiciel libre. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être récupérées? Qu'est-ce qui est spécifique de du travail des enseignants? Bon, ça, c'est des questions complexes. C'est plus un programme de travail qui se dessine quand on énumère ces questions. Alors, je vais passer rapidement sur les réponses des membres des associations, puisque vous êtes là, donc vous avez une diversité de réponses. M'en donner juste deux extrêmes du point de vue des représentations. Hein. C'était, je retraduis juste la façon dont quelqu'un à ses AMAT, je vais donner deux réponses à ses AMAT, décrit sa façon de voir l'association. Voilà une première réponse. Et on demandait aussi de se situer dans ce graphique, hein, dans ce schéma. Donc la personne qui répond, qui fait cette construction, est dans le CA de ses AMAT. Et elle représente ses AMAT comme ça, avec un CA, les adhérents, les salariés, et puis ensuite les relations avec les institutions, puis d'autres associations, les utilisateurs, etc. Avec un ensemble de flèches, on voit bien que tout ceci est... Jean-Philippe faisait un graphique tout à l'heure avec beaucoup de flèches. Dès qu'on veut modéliser une relation, les relations dans une association, c'est très complexe et il faut s'arrêter à un certain niveau. Sinon, plus une association vit, plus c'est difficile, évidemment, de figer les choses. Et donc, on représente à grands traits ce qui paraît plus important dans ce qu'on voit. Alors, c'est une première représentation, je dirais, liée au point de vue dirigeant. Parce que dirigeant, je veux dire, pilote, hein, je dis dirigeant pour aller vite. Hein, et tout objet, on le représente soit par une coupe, soit c'est son propre point de vue. Et là, cette sorte de pyramide, c'est une vue latérale d'une organisation en cercle concentrique. Quand on dit cercle concentrique, si on regarde différemment, on peut voir pyramide. Et puis là, n'apparaissent pas les différents projets. Alors, évidemment, si on discute avec la personne, elle dit, ben oui, évidemment, il y a les projets, mais c'est une façon de voir l'association correspondant à sa place, et puis un certain type de développement, peut-être, ou un certain projet initial. Voilà une autre représentation de la même association, qui est plus liée à l'idée de membre actif, à la personne qui répond, dit, moi, je suis dans un des projets. Et là, on voit une association qui fonctionne sur des piliers qui sont les projets. Ça correspond plus à ce qu'on nous a présenté tout à l'heure. Donc c'est une modélisation qui privilégie les groupes de projets avec l'idée d'espaces complémentaires qui se nourrissent les uns les autres plus que l'idée de cercles concentriques. Bon, et puis les différentes réponses qu'on a eues de Weblettre, de Clionote, etc., les différents graphiques. Alors, c'est surtout les matheux qui font des graphiques. Dans les réponses de Weblettre et de Clionote, on n'a pas eu de graphique. Mais les mots sont aussi de la même façon, décrivent des graphiques, et on retrouve toute une variété de représentations entre ces deux pôles, hein, entre les cercles concentriques et une mosaïque de projets. Alors, ça, c'est le point de vue c'est la réalité des associations, des problèmes qu'elles posent. Maintenant, je vais en parler des projets de recherche que je connais, dans lesquels j'ai été, dans lesquels je suis. On va retrouver des choses qui sont finalement assez proches. En mathématiques, il y a une longue histoire de la conception collaborative de ressources. Il y a d'abord les IREM. Les IREM, ça fait 30 ans. Et puis, il y a aussi l'INRP qui a toujours développé des équipes en mathématiques combinant la formation continue et la conception de ressources et concevant toujours la conception de ressources comme quelque chose de très collaboratif. J'en parlerai pas. Je vais parler du SFODEM, qui est un dispositif dans l'Académie de Montpellier qui a vécu pendant 6 ans. Il y a peu de dispositifs institutionnels qui vivent assez longtemps pour qu'on puisse vraiment tirer des choses intéressantes. Donc, qu'il ait vécu 6 ans, c'est intéressant. Puis, dans le SFODEM, il y avait aussi des membres actifs de Math en Poche. C'est une expérience commune, hein, d'une certaine façon. Donc, c'est intéressant à regarder. Le SFODEM, c'était avait pour objectif de former les enseignants à l'intégration des TIS dans la classe. Mais avec une hypothèse forte, cette formation, elle ne peut se faire qu'à partir d'une conception de ressources qu'on expérimente dans les classes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait hors des classes. On conçoit des ressources, on les expérimente. Et puis, le dernier projet qui est en cours depuis un an, qui se développe fortement, et qui est aussi un projet de collaboration, dans lequel il y a Math en Poche, donc il y a des membres de CESAMAT, et c'est un projet institutionnel où il s'agit de concevoir des ressources, non pas pour des enseignants, mais pour des formateurs. Mais la question est la même. Comment concevoir des ressources sur une base assez riche et avec l'idée que les formateurs qui vont utiliser ces ressources, donc ces parcours de formation mis sur un catalogue de formation nationale, ces formateurs ne sont pas ceux qui auront conçu les ressources. Donc, vous voyez, il y a toujours la même question. Comment on conçoit des ressources pour soi-même et pour d'autres? Et comment on s'enrichit de ce que font les autres? Alors, qu'est-ce qu'ont révélé ces deux projets? D'abord, le SFODEM, initié par l'IREM de Montpellier. Alors, il y avait l'idée dans le SFODEM on va retrouver l'idée de projet aussi, de fonctionner, pour reprendre vos expressions, sur quatre projets. Quatre projets, quatre thèmes de formation, en prenant des thèmes de formation assez différents. Il y avait un thème, par exemple, sur arithmétique et le passage entre arithmétique et algèbre, un thème sur la résolution collaborative de problèmes, un thème sur la géométrie dynamique. Donc, des thèmes mathématiques différents, des environnements technologiques différents, vidéoprojection, salle informatique, calculatrice, pour essayer de tirer de cette variété de thèmes, de dispositifs, d'essayer de tirer des propriétés un peu communes, des invariants. Ou alors, quand quelque chose était différent, de s'en servir pour voir si ce qui apparaissait dans un projet ne pouvait pas être utile dans un autre projet. Alors, on a parlé du dispositif. Alors là aussi, finalement, c'est un dispositif assez hiérarchique, mais où les choses sont entremêlées. Dans le SFODEM, il y avait une cellule de formation dans laquelle il y avait des pilotes, c'est des enseignants-chercheurs. Bon, mais dans le Math en Poche, dans CESAMAT, il y a aussi des pilotes. Des formateurs qui étaient associés à toutes les étapes à la recherche. Et puis, chaque équipe de formateurs concevait des ressources, mais j'aurais dû mettre des petits cercles autour de formateurs stagiaires, parce que dans ces petits groupes de projets, les rôles étaient pas vraiment assignés à l'avance. C'est-à-dire que ce n'était pas les formateurs qui proposaient des ressources aux stagiaires, mais ces ressources étaient co-construites et expérimentées dans chaque classe. Les formateurs n'étaient pas à part de cela. Ils expérimentaient aussi les ressources dans leur propre classe. Hein. Et puis, les classes elles-mêmes. Et puis, ce dispositif, aucun dispositif est isolé. Là, il a des relations avec l'institution, avec des équipes de recherche d'appui. Et puis, avec des ressources initiales, on ne conçoit jamais rien à partir de rien. Donc, il y avait les ressources initiales de l'IREM, etc. Ça a vécu pendant 6 ans avec un renouvellement des équipes, forcément. Il y avait 20 stagiaires à peu près dans chaque équipe, renouvelés chaque année partiellement. Pour une cellule de formation, je l'ai dit, pour penser, réguler le dispositif. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce. Qu'est-ce qui est apparu dans cette expérience? D'une part, la nécessité d'un travail continu. Jean-Philippe évoquait la nécessité de la présence. C'est tout à fait indispensable, la présence. Et bon, on a fonctionné sur 2 ou 3 jours, mais le travail à distance ne permet pas toute la richesse des interactions en présence qui vont de la plaisanterie partagée à la mise en évidence de certains obstacles, enfin bon, voir les personnes. Et puis il y a eu différentes étapes cruciales que vous connaissez aussi. D'abord, dans la première phase du SFODEM, on a fonctionné par des ressources expertes qui étaient proposées par les formateurs, bien souvent des enseignants pionniers, comme on en connaît dans les IREM, qui intégraient les TICE depuis 20 ans dans leur classe et qui avaient des ressources qu'ils connaissaient bien, qui étaient parfaitement valides, intéressantes, mais ils les connaissaient tellement bien qu'il y avait beaucoup d'implicites dans ces ressources. Et puis quand il est proposé à quelqu'un, soit la personne est trouvée trop complexe, soit elle trouvait que pour son propre monde d'enseignant, sa propre expérience personnelle, il n'aurait pas introduit les choses comme ça. Donc c'est des ressources plutôt fermées, donc ça a assez mal marché. Et puis là où ça a bien marché, où ça a mieux marché, puis la transition s'est faite petit à petit, c'est quand la conception s'est faite à partir de ressources tout à fait élémentaires, ce qu'on appelait des germes de ressources. Par exemple, ça peut être une idée, j'ai trouvé telle animation sur Internet pour introduire le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on pourrait en faire dans la classe? Ou un problème professionnel comme ressource. La variabilité, par exemple, en seconde, alors là c'est un nouveau truc, vraiment je ne sais pas comment l'introduire. Et donc, on part de ça pour concevoir des choses qui vont être vraiment partagées. Et on va voir dans chaque groupe l'émergence à la fois d'une communauté, c'est-à-dire de gens partageant pas mal de choses, et puis d'un vivier de ressources avec des traces du processus de conception du bien commun, voire plein de choses. On a parlé tout à l'heure de livres d'or, des chartes, c'est-à-dire quels sont les engagements communs des stagiaires et des formateurs. Donc expliciter ce qui fait qu'on partage une année de travail en commun. Bon, forum, mail, etc. La mémoire de travail conservée. Le souvenir des différentes étapes de ce qu'on fait ensemble. Et puis il y a eu émergence d'un modèle avec la prise en compte des besoins spécifiques de chaque groupe. Par exemple, un élément du modèle qui est apparu assez du modèle, c'est-à-dire d'une structure des ressources, qui est apparu naturel dans un des groupes qui travaillait sur la résolution collaborative de problèmes, sur les narrations de recherche. Et eux ont vite dit, dans notre modèle, nous, dans ce qu'on appelle une ressource, il y a forcément les narrations de recherche des élèves qu'on a récupérées l'année N, certaines sont tellement bien qu'elles font partie de la ressource pour l'année N plus 1. Et donc, dans les autres groupes, on a eu la réflexion, mais est-ce qu'il n'y a pas même si on ne travaille pas sur les narrations de recherche, est-ce qu'il n'y a pas des éléments, des moments critiques dans le travail des élèves, des copies d'écran, des réflexions d'élèves qui devraient faire partie de la ressource parce que c'est une expérience unique, finalement, qu'il faut transmettre avec le problème lui-même. Et puis, quelque chose qui est apparu à la fin du dispositif comme tout à fait crucial, c'est ce qu'on appelait le curriculum vitae d'une ressource. C'est-à-dire une ressource, elle est donnée avec la ressource pour la classe, avec les différents moments, les différentes traces d'évolution. Pas toutes, évidemment, mais les moments qui sont apparus cruciaux dans l'évolution. Alors, on a donc, en 2006, achevé cette expérience par un modèle de ressource. Je dis qu'il est provisoire parce qu'il a tout le temps évolué. Et c'est certain pour nous que si le SODEM avait continué 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce modèle de ressources, il aurait évolué aussi. Et puis il est local, c'est-à-dire il est adapté à des besoins d'une formation à l'intégration des TICE dans une académie. Donc une formation dans laquelle il y a un regard institutionnel, il y a des formateurs, il y a un plan académique de formation, etc. Donc tout ça donne quelque chose où il y a des éléments qui peuvent être utiles pour d'autres. Par exemple, l'idée d'une fiche d'identification, de distinguer fiche technique et fiche pédagogique. par exemple. Parce que bien souvent, quand les formateurs présentaient ou les enseignants présentaient une ressource, elle était vraiment liée à un environnement technologique. On disait, par exemple, appuyer sur la touche Y égale pour parler du répertoire de fonctions d'une calculatrice. Bon, vous voyez cette idée. Donc, distinguer les deux, ça oblige l'enseignant, le concepteur d'une ressource, à parler pédagogie. C'est quoi son intention quand il développe cette ressource? Bon. L'idée de scénario et de compte-rendu d'expérimentation, bon, vous avez évoqué la nécessité d'une scénarisation, bon, l'idée de CV, etc. Et puis, avec ce modèle, il y a aussi un modèle de développement. Et on va retrouver ici quelque chose qu'on va retrouver dans Performance après. Comment on construit un parcours de conception collaborative de ressources? C'est-à-dire à la fin du dispositif, qu'est-ce qui nous a permis de nous développer? Avec des étapes qui peuvent être qui ont été les étapes de ce dispositif, qui peuvent être des étapes pour d'autres. Quand on commence à travailler ensemble, on commence par explorer l'existant. On ne part pas de zéro. Ensuite, on définit nos objectifs, on met en œuvre. Et à toutes les étapes, ce ne sont pas des étapes successives, mais tout ceci est en boucle. Bon. On réfléchit à tout moment sur qu'est-ce qu'on fait. Oui, pardon. Alors, l'idée de CV, c'est l'idée de version successive. Quand on conçoit une ressource, on va dire auteurs initiaux, puis après contributeurs, etc. Et là, on essaie d'enrichir un petit peu ceci. Alors, l'idée de curriculum vitae, un nom jamais innocent, hein, ça veut dire qu'un curriculum vitae, c'est quelque chose pour quelque chose de vivant, comme pour une personne. Hein. Donc la ressource évolue, et on dit pas seulement les contributeurs successifs, mais pourquoi c'est une nouvelle contribution, à quelle nécessité elle répond. Est-ce que c'est le scénario qui a été refait, et pourquoi, est-ce que c'est cette idée-là. Alors, le parcours de conception, vous voyez, explorer, définir, réfléchir, échanger avec ses pairs, donc dans le dispositif, mais aussi à l'extérieur, et puis réviser, donc quelque chose qui boucle à tout moment. Hein. Donc, l'idée d'un modèle de ressources, d'un modèle de parcours. Et c'est des choses qu'on va retrouver de façon, on pourrait dire troublante, mais pas troublante, parce que c'est assez naturel, ça répond aux mêmes questions, dans Performance. Performance, c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans et dans lequel on a développé un groupe de recherche développement dans lequel il y a des personnes de CESAMAT, il y a des équipes de recherche à l'INRP, il y a des IREM, il y a 2 IREM, il y a un IUFM, l'IUFM de Rennes, de Bretagne. Alors, c'est un dispositif hybride, travail à distance et travail en présence, et collaboration entre pairs. La même idée que dans le SFODEM, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas de concevoir ou de tester, mais c'est de concevoir et de tester des situations pédagogiques avec les TICE. Et on fait des conceptions de parcours de formation partageables qui reposent sur ce modèle. C'est-à-dire, on va imaginer, par exemple, une formation à l'intégration du tableur, dans lequel on va essayer de penser toutes les ressources nécessaires à un formateur pour mettre en œuvre ce parcours dans son académie, dans son établissement, peut-être. Et dans ce parcours, l'élément clé, ça sera, eh bien, je vais le montrer juste au-dessus, on trouve quelque chose qui rappelle le schéma que j'ai montré tout à l'heure. J'arrive même pas à lire moi-même ce qui est marqué. Alors l'étape 1, c'est introduction à la formation. L'étape 2, c'est l'étape de sélection des contenus et de constitution des équipes. On essaie d'imaginer comment devrait fonctionner une formation, comment devrait travailler un formateur qui prend un parcours dans ce catalogue national. Alors, il forme ses équipes. Il y a une période d'auto-formation, c'est-à-dire en présence et à distance. Auto-formation et formation, c'est-à-dire on s'inscrit dans une formation, par exemple, à l'usage du tableur, où il y a un certain nombre de choses qui doivent être apprises. Ensuite, l'étape 4, on produit une séquence pédagogique ensemble ou par petits groupes. Et puis, on met en œuvre cette séquence pédagogique. Et puis, il y a un retour réflexif. Et puis, on propose éventuellement une évolution pour cette formation. Voilà. Donc, c'est ça le modèle de performance qui est proposé. Et puis, il y a différents acteurs, l'enseignant, le formateur, le concepteur de parcours. Alors, c'est dans ce dispositif... C'est un peu compliqué, hein. Je m'excuse, je me rends compte en le présentant. Donc c'est ce dispositif national, et nous on a construit sur ce dispositif un projet de recherche, c'est-à-dire pour voir comment ce dispositif, les conditions pour que ça puisse marcher. Parce qu'il ne suffit pas de dire on va faire des parcours pour les formateurs, on va les mettre en ligne pour que ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est parti avec la même idée que pour le SFODEM, c'est-à-dire on va essayer de concevoir des parcours, et d'emblée, on va concevoir des parcours sur des thèmes différents. Il y a un parcours, et sur des thèmes assez différents, au-delà des mathématiques, un parcours sur l'intégration des globes virtuels dans la classe, en géographie et en géologie, un parcours sur la géométrie dynamique à Montpellier, c'est là qu'il y avait les collègues de Césamat, et un parcours à Rennes, ben, il y avait aussi des collègues de Matempoche aussi à Rennes, individualisation et base d'exercice en ligne. Pendant l'année zéro, c'est l'année qui vient de se terminer, on a conçu des parcours de formation, mais en même temps en les testant. Et on les a mis en ligne. Et l'année 1, c'est l'année qui commence maintenant, ces parcours qui sont dans des catalogues nationaux vont être proposés à d'autres formateurs qui ne les ont pas conçus. Et on va voir, on va suivre leur appropriation. Et nos questions de recherche étaient... Ben, à quelles conditions des formateurs pourraient s'approprier des parcours de formation conçus par d'autres? À quelles conditions les parcours pourraient s'enrichir de l'expérience des formateurs qui les empruntent? Alors voilà un dispositif encore plus complexe qu'on a mis en place et où tous les problèmes que vous avez posés de travail collaboratif se retrouvaient, mais qui ressemble au dispositif SFODEM avec un étage en plus. Parce qu'il y a des groupes de une cellule de recherche, si vous voulez, dans laquelle il y a des pilotes et des concepteurs de parcours. Ces concepteurs de parcours vont les tester avec des formateurs qui vont mettre en œuvre ces parcours, mais ces parcours vont être mis en œuvre dans tout parcours de formation, il y a aussi des stagiaires, et en fin de cours, des élèves. Donc vous voyez ce dispositif dans lequel on a dû penser à ce nombre de choses pour que ça fonctionne vraiment. Alors qu'est-ce qui est apparu? Ben, d'abord le temps nécessaire à une culture commune, mais l'intérêt aussi dans ce groupe de recherche avec des gens assez différents, de mettre en commun ses expériences propres pour avoir quelque chose qui soit assez riche. Et puis la nécessité d'outils communs pour que les parcours fonctionnent, d'outils qui n'étaient pas imaginés au départ par le dispositif performance, qui est un dispositif de la SDTIS. Et ces outils communs avaient beaucoup à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les agendas de formation, pardon, l'historique du parcours. Et un certain nombre, finalement, d'assistants méthodologiques. Par exemple, dans les parcours, il y avait la formation donnée de façon brute. Pour chaque étape, on a essayé de se demander quels sont les outils spécifiques qui sont nécessaires aux formateurs. Et avec l'idée que ces outils spécifiques aux formateurs, ils peuvent être aussi utiles pour le stagiaire, mais des outils qui permettent d'assister à chaque fois le développement de la formation. Par exemple, une journée en présentiel, quels sont les objectifs d'une journée en présentiel? Comment arriver à positionner chaque stagiaire qui arrive dans un parcours? Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les formateurs qui étaient là-dedans avaient chacun leur petite technique pour une première journée en présentiel, pour des questionnaires de positionnement au sein de la formation. Mais de mettre en commun tout ce que ces formateurs, sur des thèmes très différents, avaient conçu pour leurs propres besoins, ça donnait quelque chose de tout à fait intéressant. Bon, alors je n'ai pas développé davantage sur ces parcours et sur ces dispositifs. Voyez ce qu'il y a finalement de commun aux questions que vous posez et aux questions qui sont dans ces dispositifs. Alors, si je voulais en faire une petite synthèse, là, on préfère la synthèse avec des graphiques. Dans ces AMAT, ce qu'on a vu, et ce qu'on pourrait représenter de 36 façons différentes, hein, c'est quel est le parcours de ces AMAT? Quel est le parcours d'une association? Et penser le parcours, c'est aussi penser à un moment donné de ce parcours, comment c'est structuré. On peut le voir aussi dans le SFODEM, comment le SFODEM a conçu son propre développement et comment il pense sa propre structure. Et puis dans performance, c'est pareil, hein, quel développement, comment on pensait le développement d'un parcours de formation et comment on pense la structure qui permet de mettre ça en œuvre. Et on pourrait voir dans un cas des modèles de parcours, modèles au sens toujours très relatif, modèle local et puis momentané, et puis des modèles de dispositifs. Mais il me semble qu'on peut penser plus généralement les choses en disant que de toute façon, c'est des ressources, c'est modèles de ressources. Parce que on peut pas concevoir un parcours sans penser à qu'est-ce qui permet de le développer. Et le modèle de dispositif, qu'est-ce qui permet de faire jouer ces différentes pièces du puzzle? Quels sont les sortes de contrats passés? Quels sont les objectifs communs? Donc de toute façon, globalement, on pense ces modèles de ressources qui permettent de faire jouer le regroupement de personnes et ce qu'elles produisent et la façon dont ça joue. Comment on se regroupe et qu'est-ce qu'on produit ensemble? Alors, j'en viens aux concepts qui permettent de, enfin, qui permettent de penser ça, mais comment, qui facilitent le traitement de ces questions. Je vais aller assez vite sur travail collaboratif, coopératif, sur lequel Jean-Philippe et Benjamin ont déjà développé. Hein, collaboratif, on se répartit le travail. Collaboratif, on fait tout en collaboration. Mais on peut le dire comme ça pour séparer les choses. En fait, dans la pratique, c'est très difficile de le séparer. Par exemple, je ne sais pas si Benjamin et Jean-Philippe pourraient dire si leur exposé de ce matin, c'est un travail collaboratif ou coopératif. Les deux. Parce que quand Jean-Philippe, tu dis, bon, je crois que je vais répéter des choses parce que, bon, il y a évidemment des choses qu'on fait séparément, puis tout ceci est très mélangé. Et d'ailleurs, on le voit quand on interroge les associations, ce qu'elles mettent derrière les membres des associations, hein, coopératif, collaboratif, c'est très mélangé. Tout ça est imbriqué. Et ce qui nous a frappé dans le questionnaire, c'est de voir la richesse de la mutualisation. Et ça, il me semble, il faut avoir ça en tête quand on développe des associations. C'est-à-dire que ce qui apparaît souvent comme quelque chose de primitif, la mutualisation, on met quelque chose sur une plateforme. En fait, c'est le premier acte, je dirais, décisif. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est pas évident de mettre ce qu'on a fait sous l'œil commun. Et c'est très fort dans ce que les réponses des associations, elles parlent du don, gratuité, partage, ouverture sur le travail des autres, acte gratuit, chacun prend celui qui a besoin et ne donne que lorsqu'il en est capable. C'est, je pense qu'il faut penser à la mutualisation comme un des ressorts fondamentaux de ce qui fait travailler les gens ensemble. Alors, un mot sur les communautés de pratique, parce qu'on en parle beaucoup. Alors, dans les communautés de pratique, c'est quelque chose qui est bien commode pour parler des associations d'enseignants qui produisent des ressources. Parce que dans ce que Wenger décrit, dans une communauté de pratique, il parle d'engagement, participation, réification. Trois principes. Dans ce que vous avez montré ce matin, on voit bien ces trois, comment ça vit réellement. Hein. L'engagement, la participation, la réification, on met des choses en partage. À la périphérie, il y a moins de participation, mais de la reconnaissance. Et tout le problème est de penser les conditions de la dialectique participation-réification. Et Wenger dit bien que pour que ces communautés marchent, il faut participer, il faut qu'il y ait beaucoup de participation, il faut qu'il y ait beaucoup de production, mais s'il y a trop de l'un par rapport à l'autre, ça ne marche plus. C'est-à-dire si chacun participe, échange, mais s'il n'y a rien qui sort, ça ne marche pas, et le contraire. Et cette dialectique est très complexe, c'est la question qui est posée dans les dispositifs de recherche et pour vous. Hein. Dans les réponses qu'on a eues, c'est comment ça marche dans les réponses au questionnaire. Hein. Il y a des choses techniques, interface technique simple. Alors ce matin, Jean-Philippe, tu reconnais la photo, j'espère, c'est la réunion. La convivialité, la réunion à la réunion. Et oui, c'est important. Il y a des choses aussi qui relèvent de qualité personnelle, hein, qu'on conquiert, hein, être simple, humble, douter, chercher, questionner. Une association a dit qu'il faut un chef serein, permuter les responsabilités, intégrer les nouveaux participants. Alors, il y a beaucoup de choses ont été dites ce matin, et là, il me semble qu'on est au cœur des problèmes. Hein. Il y a différents rôles. Comment on conçoit ces rôles? On a parlé ce matin de développeurs et scénaristes. Comment ça peut fonctionner vraiment en cercle vertueux? Quelqu'un a dit, justifie son ignorance, c'est bien que je connaisse rien en développement, parce que comme ça, je ne me limite pas. Il y a quand même des limites dans ce procéder là. On voit bien que chacun doit connaître un petit peu quand même. Parce que la technique, c'est pas seulement un objet de limitation, mais c'est aussi, ça ouvre des possibles. Hein. Donc si on ne sait pas comment fonctionne un blog, peut-être qu'on ne développera pas une plateforme, on n'aura pas des idées de développement de plateforme. Donc il y a une complémentarité. Tout le monde ne peut pas tout faire, mais on ne peut pas tout ignorer du travail de l'autre. Donc ça, c'est assez compliqué. Les conditions de développement d'une association ne sont pas les mêmes au début, puis quand la viabilité est assurée et en phase de plein développement. Donc au début, il peut y avoir des groupes, un groupe, il suffit qu'il y ait un groupe de 40 personnes extrêmement motivées, ça peut marcher. Un an, deux ans, trois ans, ça ne marche pas tout le temps, ça. Donc il faut trouver des relais. Alors je trouve qu'il y a un truc qui serait assez intéressant à regarder, c'est prendre du champ historique et regarder les grandes associations d'enseignants, comment elles ont fonctionné. Alors, il y a une que je connais bien qui s'appelle l'école émancipée. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que maintenant c'est une tendance d'un syndicat. Hein. Mais en 1910, l'école émancipée a été créée par des instituteurs sur la lancée d'un grand mouvement pédagogique qui a donné le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson, qui est en ligne à l'INRP, qui était en gros On développe l'école publique et il faut qu'on prenne ça en main nous-mêmes. Et les instituteurs, à l'époque, ont créé des bouquins, des manuels, des associations de solidarité. Qu'est-ce que je vous dis ? Enfin, énormément de choses. Et ça regroupait des milliers de personnes. Et ils ont mis en place petit à petit, au départ assez peu nombreux, mais après ils ont mis en place un certain nombre de principes. Ça débouchait entre autres sur Freinet d'ailleurs, hein, l'école émancipée. Toujours avoir une classe. Personne dans l'association doit être permanent, tout le monde doit avoir une classe. Il ne doit y avoir aucun mandat trop long. Et je crois qu'ils avaient dit au départ 4 ans. Donc ils ont mis en place plein de principes pour que les choses tournent. Il doit y avoir nécessairement des réunions géographiques combinées au projet. Parce qu'il fonctionnait aussi sur des projets. On fait des manuels, etc. Mais regroupant des gens au niveau national. Il faut qu'il y ait des regroupements géographiques parce que c'est là une façon forte de faire en sorte que nos projets soient liés à la classe. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait regarder. L'école émancipée, j'en parle parce qu'elle a été tellement vivace qu'elle a été majoritaire après dans des syndicats puisqu'elle s'est transformée en tendance syndicale de la FEN en 1948, et quand j'ai commencé mon travail d'enseignant en 1975 dans l'Hérault, l'école émancipée était encore majoritaire dans le syndicat national des instituteurs dans l'Hérault. Majoritaire, ça veut dire qu'elle tenait les réunions pédagogiques, qu'elle était responsable de la MGEN, etc. Donc vous voyez, c'est une expérience sur plusieurs dizaines d'années. Hein. Donc c'est intéressant à regarder, parce qu'ils se sont vraiment posé les problèmes que vous posez maintenant, et qu'il y avait d'autres types de solutions, parce que maintenant, il y a des moyens pour travailler qu'on n'avait pas à l'époque. Hein. Mais sur le plan, si on prend un peu de recul, beaucoup de questions posées étaient les mêmes que celles qui sont posées aujourd'hui. Donc, à regarder. Alors, des concepts pour penser les questions posées. Je vais aller vite. Hein. Les questions de qualité, elles sont très, très importantes et elles sont diverses. Je crois qu'il y a une conférence demain. Il y a différents types de qualité, scientifiques, didactiques, ergonomiques, curriculaires, sur le rapport au programme. Hein. Tout ça, c'est à penser. Qu'est-ce qu'une ressource de qualité ? À débattre. Alors, il y a quelque chose qui est très important, qui est très, très vif dans la recherche et que vous avez bien exprimé ce matin, c'est la relation aux usages. Hein. La nécessité de concevoir des choses qui vont s'enrichir de façon continue. Et donc, de tourner l'association vers les utilisateurs. Et de faire en sorte qu'il n'y ait pas concepteur-utilisateur, mais qu'il y ait des sas hein, et des allers-retours. Donc, c'est pas seulement liste forum, hein, mais c'est un enrichissement à penser dès la conception initiale. Quand on conçoit une ressource, comment la penser pour qu'elle puisse évoluer ? Vous avez parlé de livres d'or, historique, CV, traces, etc. Tout ça est à penser. Bon, j'ai pris un extrait du manuel Sésamat où on voit bien là cette préoccupation qui est bien dans votre développement. L'idée de méta-design, c'est quelque chose qui est très fort, je trouve, qui est à regarder, qui est développé en particulier aux États-Unis. L'idée que ce qu'on doit concevoir, c'est pas des ressources, mais c'est ce qui permet de développer les ressources. Qu'est-ce qu'on peut concevoir pour faire en sorte que les enseignants, des groupes d'enseignants, conçoivent eux-mêmes leurs ressources ? Donc, cette idée de méta-ressources. Hein. Bon, ça, c'est à penser. Hein. Ça me semble très fructueux pour les grandes associations comme la vôtre, hein, d'aller au-delà de ressources, mais de concevoir ce qui permet de concevoir. Alors, pour quasiment terminer, la dialectique, comment je la pense aujourd'hui ? On est un certain nombre à la pensée, dialectique communauté-ressources. Hein. Cette idée de penser le processus documentaire comme une articulation entre un enseignant et un ensemble de ressources, avec un double mouvement d'instrumentation, c'est-à-dire une ressource, ça permet à un enseignant d'avoir de nouveaux moyens d'enseigner, mais aussi d'instrumentalisation, c'est-à-dire que l'enseignant, lui, peut à tout moment, dans l'appropriation d'une ressource, il la modifie. Et pensez ça dans un développement. Hein. Et un document, finalement, pour un enseignant, c'est pas seulement la ressource qu'on voit, mais c'est toute l'utilisation qui va avec, toute la richesse, tous les gestes professionnels dont on n'aperçoit qu'une partie. Et c'est un changement de point de vue sur le travail du professeur, c'est la recherche qu'on a un certain nombre à conduire, c'est-à-dire pas regarder le professeur dans son développement à partir de ce qu'il fait dans la classe, et puis en remontant petit à petit à ce qu'il fait au dehors, mais regarder le travail du professeur comme essentiellement hors de la classe. Avec ses collègues, seul. Et le travail de la classe est un moment du développement professionnel de l'enseignant, essentiel bien sûr, hein, mais c'est un moment. Et puis si on enrichit ce schéma, c'est pas professeur et ressources, mais une communauté de pratique ou un collectif et puis un vivier de ressources, et on regarde cette dialectique-là. Alors, je vais... Il me reste combien ?
Une dizaine de minutes.
10 minutes. Bon. Alors, un mot sur la formation maintenant. Parce que, dans le fil de ce que j'ai dit, la question a été justement posée aujourd'hui. Puis c'est une journée de formation en plus. C'est 2 jours de formation. C'est quoi la formation? Alors d'abord, la formation, elle est donnée par les associations elles-mêmes. C'est quelque chose de très fort. Et on le voit bien dans les réponses aux questionnaires des collègues. Hein, ils disent, ça permet d'apporter, à quoi servent les associations? Quoi servent? Ça apporte aux jeunes professeurs une formation post-UFM plus que précieuse. On voit bien aussi dans l'évolution de la carrière. Être dans l'association, ça m'a permis de valider telle ou telle chose. Étant dans une association, j'ai été repéré par les IPR, je fais partie de l'équipe académique du DATIS, et puis on voit plein de choses aussi d'enseignants qui disent d'une participation à l'association, j'en suis venu à une participation dans un truc de quartier, puis d'ailleurs je suis maintenant conseiller municipal de mon petit village, etc. Ça va dans ce sens, ça va dans l'autre sens aussi. Mais une dynamique, les associations sont porteuses de développement professionnel. Il y a aussi, plus généralement, ce que la formation que procure en général les communautés virtuelles. Hein. L'idée de participation avec des milliers de collègues, ouvrir de nouveaux horizons. Et puis, il y a toute la réflexion sur c'est quoi être praticien réflexif. C'est une réflexion très forte dans les communautés de recherche. Hein. Comment se former, c'est analyser sa propre pratique, dire qu'est-ce que je fais dans ma classe, qu'est-ce que je produis. Et ça, c'est aussi un élément fort que les associations portent. On donne aux autres à voir ce qu'on fait, puis les autres critiquent, du coup on regarde ce qu'on fait. Enfin, il y a un mouvement ici qui est très important à constater. Et puis, ce qui me semble très important, c'est d'arriver à penser la combinaison de différents types de formations. Il y a la formation interne, sur plein de choses, hein, la formation aux outils que vous faites, à la conduite de projet, à la démarche qualité, articulation, conception, usage. C'est très important, il me semble, que ces AMAT participent aux formations institutionnelles. Bon, vous participez déjà, mais Académie, PNF, qui est cette volonté, université d'été, hein, de concevoir ça aussi, pour que les membres des associations se forment et qu'ils contribuent aussi à former les autres. Et puis, co-construction de sessions de formation avec la recherche, aujourd'hui, de ce point de vue-là, c'est vraiment très intéressant. Pour les questions que vous avez posées, comment amener de nouveaux membres tout en faisant face aux effets d'échelle? L'idée de cultiver des communautés de pratique, alors Wenger en parle, ça, il y a des choses intéressantes à prendre là-dedans. Les communautés, elles n'évoluent pas d'elles-mêmes. Comment on les cultive? Bon, il y a des choses à penser. Bon, diversité de rôles, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, nécessité pour... comment concilier richesse du répertoire, accessibilité des ressources, hein, ouvert, fermé, vous l'avez dit. Alors tout ça, c'est des questions de recherche. Alors que dire des questions de recherche? Alors je dis, vos histoires nous intéressent, en parlant aux associations, pour de plusieurs points de vue, parce qu'il y a des études à niveau macro qu'on n'avait pas l'habitude de considérer. La recherche, on regarde souvent des établissements ou des parcours où il y a peu d'enseignants, ou alors une recherche institutionnelle à niveau général, mais c'est niveau intermédiaire où de façon différenciée, des centaines, des milliers de gens sont actifs. C'est un terrain très intéressant. Bon, l'intérêt des phases de déséquilibre, des phénomènes émergents, quand on regarde un système dynamique, c'est très intéressant de regarder quand il y a un problème qui se passe, et quand des phases de rupture, quand il y a des nouveaux phénomènes. Donc ça, c'est ce qu'on voit à tout moment dans votre développement. Bon, tout ce que j'ai déjà dit. Quand je dis vous, c'est un ensemble de communautés. Alors, ça serait intéressant de discuter. Quelles sont les communautés dans ces AMAT? C'est clair qu'il n'y a pas une communauté, il y a différentes communautés. C'est les concepteurs, il y a le noyau dur. Enfin, bon, il y a toute une géographie à faire de l'association. Et puis, il y a toutes les communautés autour de sites ressources. Ça, c'est très intéressant à regarder. Et quand je dis nous, c'est différents champs de recherche. Hein. Il y a tout ce qui concerne les traces d'usage et d'apprentissage. Il y a des recherches en informatique, en didactique. Les recherches autour des bonnes ressources, ergonomie, didactique, etc. Et autour du développement professionnel, il y a différents champs de recherche. Pas étonnant si beaucoup de chercheurs viennent vous voir en disant ben, on est intéressé par regarder ces ABAT, on voudrait des données, etc. Donc ça, c'est tout à fait naturel parce que vous constituez un terrain dynamique au sens de système dynamique ouvert et qui est tout à fait intéressant pour vous-même et pour les autres. Alors pratiquement, quel projet de recherche Alors, j'en donne un certain nombre. Il y a des chantiers qui commencent à se poursuivre. Il y a Rim Hamoud qui est là, qui va regarder dans un master les usages du site Pégase. C'est un site dont je parlais tout à l'heure, qui est développé par l'INRP, et où des chercheurs et des praticiens mettent des ressources, mais très consistantes, avec beaucoup de choses sur ces ressources, des vidéos d'élèves, vous avez les problèmes didactiques que cela pose, enfin, vraiment des choses très très lourdes. On voudrait voir comment ça fonctionne, vraiment. Et c'est, ce site marche depuis 2-3 ans, et on ne sait pas, les concepteurs n'ont jamais regardé comment, quels usages ça donnait vraiment, donc on va le regarder. Laurent Yvon, que vous connaissez pour certains, commence un master sur l'usage des clés pour démarrer des nouveaux enseignants. On sait que la SDT donne des clés aux nouveaux enseignants de maths, je ne sais pas si vous les connaissez, moi je ne les connais pas encore, qui donnent accès à un portail de ressources. Et donc on voudrait voir comment les nouveaux enseignants s'emparent de ça, quelle démarche collective ça peut susciter. Bon, Gilles Laldon commence une thèse sur les ressources et l'action didactique du professeur, où là, les ressources de ces AMAT seront certainement intéressantes à regarder. Alors, avec Gisèle Guedet, on voudrait regarder un ensemble de ce qu'on appelle les jeunesses documentaires, c'est-à-dire comment un enseignant fait évoluer son travail documentaire, et on va regarder une dizaine d'enseignants sur 3 ans. Bon, on ne sera pas tous les jours dans leur classe, mais avec un dispositif de suivi, discuter avec eux. Et on serait très intéressé par travailler avec 2 enseignants de ces AMAT, donc on en discutera pendant le repas. Dans l'équipe Eductis, il y a un groupe qui travaille sur des éditeurs de scénarios. Ça peut être intéressant pour vous qui réfléchissez à une scénarisation de voir s'il y a une interface commune entre cet éditeur et les scénarios que vous voulez développer. À propos de ces AMAT, il y a une thèse qui travaille sur les aspects individuels et collectifs des jeunesses documentaires, avec Hussein Sabra qui est ici présent, à côté du président, là, et qui va vous distribuer un questionnaire, là, tout à l'heure, au midi. Donc, merci d'avance de bien vouloir le renseigner, même s'il est un peu long. Il y a un travail sur les aspects collaboratifs qui est entrepris par Éric Brouillard, et je crois qu'il y a des entretiens qui ont lieu à cette... en marge de cette formation. Il y a des questions économiques aussi posées, donc tout ceci est à regarder. La recherche, c'est pas seulement votre association d'un côté et la recherche de l'autre, qui regarde comme ça votre association, mais c'est aussi des chantiers communs. Il y a actuellement des réponses à des appels d'offres, on est dans performance, ce que je sais en tout cas des réponses à des appels d'offres, on est dans performance, et dans Inter de Géo, Christian Berca en parlera demain, donc c'est déjà un projet, deux projets communs. Et puis, ce qui me semble intéressant aussi, c'est une co-construction des questions de recherche. C'est-à-dire qu'il y ait un travail, des équipes, où il y a à la fois des personnes de ces AMAT, et puis des chercheurs, ça se passe à l'IRM de Bretagne, ça se passe peut-être ailleurs, où les questions ne sont pas plaquées, mais on regarde ensemble ben, quelles sont les questions que ça pose, et puis on essaie de trouver, dans une interaction constante, des réponses ou une reformulation des questions. Alors je pensais peut-être à travers ce qui s'est passé le 24 septembre, il y a différents niveaux de structures nécessaires. Il y a ce que vont faire les associations ensemble, il y a ce qui s'est passé au départ avec 3 associations, ça va certainement se prolonger avec un regroupement d'associations qui vont créer un comité de liaison, bon, quelque chose. Mais il serait certainement intéressant qu'il y ait un comité de liaison aussi entre les associations et des chercheurs ou des équipes de recherche qui travaillent ces sujets-là. Telle façon que régulièrement il y ait des interrogations communes, des comptes rendus de ce qui est fait, etc. Donc il y a une structure un peu plus pérenne, peut-être un site qu'on pourrait développer. Voilà, alors j'en reste là. Il y a un certain nombre de références possibles à consulter que j'évoquais dans la conférence. Tout ça sera mis en ligne. Beaucoup de références en ligne, aussi sur des sites. Alors j'avais commencé par le prof tout seul dans sa classe, dans un dessin. Un schéma, là c'est une autre représentation avec un mobile de Calder qui représente bien un peu ce qu'on peut imaginer comme structure de la recherche aujourd'hui, qui se vit beaucoup moins de façon structurée mais comme des projets qui interagissent entre eux, et puis des associations. Alors j'avais terminé la conférence le 24 en disant qu'à l'inverse, qu'il y avait une dimension militante dans les associations mais aussi dans la recherche, hein, il y avait une manifestation hier d'ailleurs, qu'à l'inverse de travailler plus pour gagner plus, finalement, c'était ce qu'on voyait dans les associations, c'était partager plus pour comprendre plus. Et c'est ce qui était intéressant, c'est finalement ce qui nous rassemble. Hein. Et ces séances de formation, et ce qui est en jeu dans la recherche, c'est finalement de creuser un petit peu ça. C'est quoi, ça veut dire quoi partager plus, une fois qu'on l'a dit, qu'on dit, bon, on est, je dirais, moralement, et puis, d'une certaine façon, physiquement, parce que c'est ce qu'on fait vraiment. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire partager plus? Comment le faire? Et puis comprendre plus, qu'est-ce que ça veut dire? Et derrière, il y a toute la dynamique de l'enseignement dans la classe devant nos élèves et puis la dynamique de notre propre développement professionnel d'enseignants et de chercheurs. Voilà, merci.